Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le sommet mondial des gouvernements est à son deuxième jour ce mercredi à Dubaï. La RDC est représentée par son président. Façonner les gouvernements de demain, c'est le thème de cette grand-messe qui rassemble plus de 40 chefs d'État du monde. Réhabilitation des écoles, fournir des kits scolaires, organiser des cours de rattrapage, ce sont quelques actions prévues dans le nouveau projet que vient de lancer l'ONG Action Aid aujourd'hui à Saké dans le Massissi. Le but est de récupérer des milliers d'enfants se trouvant hors du système scolaire à cause notamment de l'insécurité. Notre invité Mado Ndoa, cadre de l'UDPS, à la veille du lancement du dépôt des candidatures pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankuru, elle encourage les partis politiques à inscrire des femmes sur leurs listes électorales. Madame, Monsieur, bonjour. Après la signature de l'accord de partenariat économique global à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, la délégation congolaise prend part du 3 au 5 février au sommet mondial de gouvernement. Cette rencontre réunit plus de 40 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que 500 ministres venus des quatre coins du monde. Le World Government Summit 2026, organisé à Dubaï, a pour thème « Façonner les gouvernements de demain ». La République démocratique du Congo y est représentée par son président Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Les organisateurs annoncent comme grande nouveauté le lancement en parallèle du World Laureate Summit réunissant 150 plus grands scientifiques internationaux dont de nombreux prix Nobel afin d'intégrer la science dans les décisions politiques. Que retenir d'autre, Alain Hirung?
L'intelligence artificielle au cœur de la gouvernance a dominé les débats non plus seulement comme outil technologique, mais comme pilier de la réforme de l'État. L'agenda s'est structuré autour de 5 thématiques majeures, notamment gouvernance mondiale et leadership efficace ou comment diriger dans un monde de plus en plus incertain et géopolitiquement fragmenté. Le bien-être sociétal. Ici, il s'agit de replacer l'humain et la qualité de vie au centre des politiques publiques. En marge des sessions technologiques, le sommet a servi de plateforme de dialogue pour aborder les crises actuelles et renforcer la coopération Sud-Sud, soulignant le rôle de Dubaï comme carrefour diplomatique mondial. Selon le ministre congolais du Commerce extérieur, l'application des thématiques du World Government Summit 2026 au contexte de la RDC offre des pistes concrètes pour accélérer le développement national en parfaite cohérence avec l'esprit de l'accord signé à Abu Dhabi le 2 février 2026. D'après Julien Paloukou, pour la RDC, le message est clair. La modernité n'est pas une option, mais une nécessité de survie. La mise en œuvre de l'accord avec les Émirats est le premier pas pratique pour importer ce modèle de performance et d'agilité administrative au sein de l'État congolais.
La réunion ministérielle inaugurale sur les minéraux critiques présidée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio se tient aujourd'hui mercredi à Washington. L'événement vise à renforcer et diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales afin de réduire la domination de la Chine dans ce secteur stratégique. Un accent particulier est mis sur la République démocratique du Congo. Élisée Chikota nous en dit plus.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Project Volt, un plan de l'administration Trump destiné à créer une réserve stratégique américaine des minéraux critiques tels que les terres rares, le cobalt et le lithium, financés à hauteur de 12 milliards de dollars. Selon les organisateurs, des délégations de plus de 50 pays sont attendues, incluant des représentants d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La RDC y participe avec la présence annoncée du président Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo occupe une place centrale dans cette réunion. Leurs récents échanges bilatéraux, notamment avec le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, marquent une nouvelle étape du partenariat stratégique RDC-États-Unis. Washington a exprimé son ouverture à un accord de type minerai contre sécurité qui offrirait un accès privilégié aux ressources congolaises, cuivre, cobalt et coltan, en contrepartie d'investissements américains dans les infrastructures.
Ouvrant en posant une page touchant les secteurs éducatifs par le Nord Kivu, plusieurs milliers d'enfants hors du système scolaire dans le territoire de Massissi vont bientôt bénéficier d'un appui visant à améliorer leur accès à l'éducation. C'est dans le cadre d'un nouveau projet de l'organisation Action Aid lancé aujourd'hui mercredi à Saké. Financé par l'Agence italienne de la coopération au développement, le projet vise également à offrir aux femmes affectées par la guerre un environnement plus protecteur. Il s'étendra sur 18 mois, soit de février 2026 à juillet 2027. Bernard Denyangui nous en dit plus.
Le projet cible prioritairement la zone de santé de Kirotche dans le territoire de Massissi. Parmi les principales activités figurent la réhabilitation d'une centaine de salles de classe, la distribution de kits et de manuels scolaires à 6000 enfants vulnérables ainsi qu'à 150 enseignants. Il prévoit en outre l'organisation de cours de rattrapage pour les élèves ayant interrompu leur scolarité pendant plus d'un an et également l'accompagnement de 2500 survivantes des violences sexuelles vers des services médicaux et un soutien psychosocial adéquat. Action Aid justifie cette intervention par l'ampleur de la crise éducative liée à plus d'une décennie de conflits armés. En province du Nord Kivu, plus de 431 000 enfants sont actuellement hors du système scolaire et au moins 1 142 écoles demeurent fermées. Pendant les 18 mois qui durera le projet, Action Aid souhaite offrir aux milliers d'enfants et de femmes de Massissi des espaces sûrs pour apprendre, se reconstruire, pour créer des changements durables, affirme M. Yacoubou Mohamed Sahani, chef de mission d'Action Aid en RDC.
Vous le savez, la guerre qui prévaut dans l'est de la RDC affecte profondément le secteur éducatif. Dans la ville de Bukavu, environ 5000 enfants courent le risque d'abandonner la scolarité à cause des effets de la guerre qui frappe de plein fouet les économies de plusieurs ménages. Des enquêtes menées récemment par l'ESBEL, initiative éminent Mwanda Plus de janvier à ce mois de février 2026 en cours dans la ville de Bukavu, démontrent que les perturbations des réseaux téléphoniques viennent aussi asséner un coup mortel à l'économie déjà agonissante. Sani Kangolingoli, président du conseil d'administration de cette ASBL, revient sur cette problématique au micro de Jean Kassami.
Après avoir été en contact avec certains chefs d'établissement et certains enfants, 50% des parents interrogés ont évoqué la pauvreté comme cause majeure d'abandon de leurs enfants, le chômage des parents lié à la sécurité dégradante à l'intérieur de la province, la paralysie de certaines activités de transaction monétaire, les banques qui n'exercent pas à Bukavu, et puis la perturbation des réseaux Vodacom qui vient empirer la situation, surtout dans cette période d'évaluation dans les écoles secondaires. Les conséquences des déperditions scolaires sont graves, notamment la délinquance et le banditisme, la prostitution et l'émergence du phénomène enfant-mère. Les enfants qui abandonnent leurs études sont de plus en plus voués à des exploitations sexuelles et à des violences avec comme conséquence des mariages précoces.
Et en Ituri, 16 élèves d'une école primaire ont été gravement blessés lundi après avoir été frappés par la foudre. Le drame s'est produit à Tchabi, situé à plus de 100 km au sud de Bounia dans le territoire d'Irumu. La foudre a touché l'enceinte de l'établissement au cours d'une forte pluie accompagnée d'orages. La coordination provinciale de la protection civile rappelle que plus de 50 élèves avaient déjà été victimes de la foudre l'année dernière dans cette même localité. Il invite les écoles à mettre en place des dispositifs de prévention, notamment l'installation des paratonnerres afin de protéger les élèves. Isaac Rimoropé revient sur les faits.
Au moment de l'incident, des centaines d'élèves de l'école primaire de Tchabi se trouvaient dans les salles de classe, tandis que d'autres s'étaient réfugiés sous la véranda du bâtiment pour s'abriter de la pluie accompagnée d'orages. C'est alors que la foudre a frappé l'établissement avec une extrême violence. Les bilans provisoires fait état de 16 blessés, dont 11 filles et 5 garçons. Les victimes ont été rapidement évacuées vers une structure sanitaire pour recevoir des soins. Une vive psychose s'est emparée des élèves et les activités scolaires ont été perturbées. Certains enfants, encore traumatisés par cet incident, refusent de reprendre le chemin de l'école. Le coordonnateur provincial de la protection civile à Ituri indique qu'une cinquantaine d'élèves avaient déjà été touchés par la foudre l'année dernière dans la même zone. Robert Njalonga appelle les responsables scolaires à installer des dispositifs de protection sur les bâtiments, notamment des paratonnerres, et à sensibiliser les élèves à ne pas s'abriter sous les arbres pendant la pluie.
Et de mesures de protection, entre autres, les antifoudres soient installés sur les bâtiments qu'ils construisent pour les écoles.
Par ailleurs, des sources locales signalent que la plupart des écoles en milieu rural à Ituri sont construites en matériaux précaires et entourées d'arbres, des facteurs qui augmentent les risques d'effondrement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Merci Isaac. Avant de quitter le secteur de l'éducation, rendons-nous dans la province du Haut-Lomami. Les enseignants du territoire de Malimbankoulou revendiquent le paiement de leurs arriérés de salaire de 3 mois. Ils l'ont fait savoir hier à Radio Kapi. Dans une correspondance adressée à la ministre de l'Éducation nationale, la synergie des enseignants du Congo, Sieko Malimbankoulou, demande au gouvernement de respecter ses engagements envers les enseignants de ce coin en payant leur salaire. Ces enseignants menacent de déclencher un mouvement de grève s'ils ne sont pas payés. Le point avec vous, Paulin Mounanga.
Les enseignants réclament le paiement de leur salaire du mois de novembre et décembre 2025 ainsi que de janvier 2026. On écoute un enseignant de Malembankoulou.
Nous, enseignants du territoire de Malembankoulou, sommes payés par le gouvernement de la République via la Caritas Kamina. Et nous sommes dans un paiement de 3 mois. Nous nous sommes rassemblés les dimanches et tous les enseignants ont dit que si une fois le gouvernement ne nous remet pas dans les droits, nous lui accordons les délais vers les 10. Arrivant les 10, si une fois le gouvernement ne songera pas aux pauvres enseignants que nous sommes, c'est par là que nous allons déposer la CRE.
Contacté, le ministre provincial de l'éducation Diolo Mami confirme l'information et souligne que ces enseignants qui ont comme agent payeur Caritas ne reçoivent pas toujours leur salaire à temps. Raphaël Ngoyiolo dit avoir échangé avec les responsables de Caritas à Kamina à ce sujet, mais il n'a pas de solution aussi. Le ministre provincial indique avoir adressé une correspondance à la ministre de l'Éducation nationale au sujet des salaires des enseignants de Malembankoulou. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Le commandement de la police nationale congolaise dans la Tchopo a procédé à la restructuration de certains services internes. La police et circulation routière compte désormais 2 services distincts. Cette mesure a été annoncée hier mardi lors d'une parade organisée par le commandant provincial de la PNC Tchopo à Kisangani. L'événement coïncidait avec la clôture de la période de courtoisie routière décrétée par l'autorité provinciale. Ces informations de Jacques Mukonko les sont rendues ici par John Chibobwa.
Après plus d'un mois de courtoisie routière, celle-ci a pris fin lundi dernier. Elle avait été décidée par le gouverneur de province afin de permettre la sensibilisation des usagers sur le respect du code de la route. Au cours de cette parade, le commandant de la police dans la Tchopo a informé ses éléments de la restructuration de la police des circulations routières. En effet, a révélé le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawesh, la police des circulations routières est scindée en 2, à savoir la régulation et la répression. Le service de régulation va s'occuper donc de la régulation de la circulation routière. Il doit expliquer aux usagers le code de la route, les différents signaux routiers ainsi que le marquage irrelatif. Le second, chargé de la répression, est habilité à constater les infractions et à réprimer toute contravention. Tout devra se faire selon les règles du métier, insiste Elvis Palanga Nawej. Par ailleurs, il adjoint ses éléments à la discipline, à la courtoisie et à l'humanisme.
Le gouvernement provincial du Maniema a lancé lundi, à partir de Shengene, la 2e phase des travaux de réhabilitation des routes sur l'axe Kindu, Kibombo, Samba, Kasongo, ainsi que certaines autres de la voirie urbaine de Kindu. Selon les autorités provinciales, cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État visant à connecter les routes de dessertes agricoles. Les travaux sont exécutés par l'Office provincial de réhabilitation des routes, OPERMA, sur fonds propres du gouvernement provincial. Cela est grâce aux taxes conventionnelles initiées par le gouverneur de province. Quels sont les avantages de ces travaux, Florence Kiza?
Les tronçons Kindu Kibombo Samba Kasongo, long de plus de 300 km, devraient améliorer la fluidité des déplacements une fois réhabilités, explique Alikiama Sawili.
Aujourd'hui, comme vous le savez, la plupart des gens qui se rendent à Kasongo passent par cette voie ici. Mais lorsque les 2 voies seront praticables, vous allez voir qu'il y aura fluidité des personnes et de leurs biens. Ce programme n'a pas oublié les tronçons de quelques voiries dans la ville de Kindu, en commençant par les tronçons Kindu qui va jusqu'à l'université de Kindu.
Le bureau de l'Assemblée provinciale salit cette avancée. Papi Omeonga, rapporteur, souligne.
Nous avons retenu cet axe sur notre budget. Et aujourd'hui, l'on vient de lancer ces travaux. Pour nous, c'est une satisfaction. Et nous allons demander seulement à la population de continuer à contribuer. Après cet axe, que l'on puisse prendre un autre axe et qu'à la fin de ce mandat, qu'on arrive à relier tous les chefs liés des territoires à la ville de Kindu.
De leur côté, certains habitants expriment de réserve. Salem Chaba déclare.
Nous disons que l'idée est bonne, mais nous avons la crainte que ce projet ne soit pas exécuté à 100% à l'instar des autres chantiers ou des autres axes que son excellence monsieur le gouverneur a lancé, mais qui jusque-là, ces chantiers n'avancent pas.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Libye, Saïf al-Islam Kadhafi, fils de Muammar Kadhafi, a été assassiné hier mardi à Zitan, dans l'ouest de la Libye. Selon son avocat français, il a été tué vers 14h locales dans sa maison par un commando de 4 personnes. Des hommes armés non identifiés auraient neutralisé les caméras de surveillance avant de prendre d'assaut la résidence et de l'exécuter, d'après des sources proches de son entourage. L'homme de 53 ans, présenté comme héritier politique de son père avant sa chute, avait été condamné à mort en 2015 dans son pays. À l'issue d'un procès largement critiqué, il avait ensuite bénéficié d'une amnistie.
L'invité.
Notre invitée est Mado Ondoa, cadre de l'UDPS. Elle s'exprime à la veille du lancement de l'opération de dépôt de candidature pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankuru. Elle encourage les partis politiques à inscrire des femmes sur leurs listes électorales. Selon cette actrice politique, cet appel répond non seulement aux dispositions de la loi électorale, mais aussi aux préoccupations des organisations de défense du droit des femmes qui réclament la prise en compte de la parité entre hommes et femmes dans les listes des partis. Mado Ondoa s'entretient avec Blaise Ndongalama.
Bonjour Madame Madondo.
Bonjour Monsieur le journaliste.
À la veille du début des dépôts des candidatures à l'élection du gouverneur de la province du Sankuru, quelle analyse faites-vous de ces scrutins?
Il y a tellement des agitations au niveau de trouver un ticket unique pour l'Union sacrée. Les gens n'arrivent pas à s'attendre. Donc c'est ce qui inquiète beaucoup parce que nous risquons de nous plonger dans les mêmes erreurs du passé lorsque nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur les gens qui doivent animer les institutions provinciales de Sankuru, l'IDPS parti au pouvoir et ses alliés. Alors nous devons parler le même langage.
Quels sont selon vous les défis qui attendent la future équipe dirigeante du Sankuru?
Il y a tellement de défis au niveau du Sankuru. Vous savez que le Sankuru est maintenant la dernière province en termes de développement. Il n'y a pas d'eau au niveau du Sankuru, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Il y a l'insécurité au niveau du Sankuru, il y a l'impunité au niveau du Sankuru. Il y a la pauvreté dont je manque même le mot. Donc il y a tellement de défis à relever. Voilà pourquoi nous avons besoin des gens là qui doivent animer la province de Sankuru, soient déjà capables, déjà qui ont la volonté, l'intérêt général pour pouvoir relever ces défis-là. Parce que le Sankuru est vraiment la dernière province parmi les 26 provinces en termes de développement.
Vous venez de le dire, les Sankuru semblent être classés au bas de l'échelle. Alors quelles sont les causes de cette situation?
Vous savez, monsieur le journaliste, et les causes sont tellement nombreuses. D'abord, il y a les querelles entre les fils de la province du Sankuru qui n'arrivent pas à s'attendre. Chacun voit que ses intérêts égoïstes. Les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord pour trouver les solutions de l'intérêt général de la population. La population est abandonnée à cause de toutes ces querelles stériles. Lorsque vous arrivez au Sankuru, la population entre eux, ils n'ont pas vraiment de problèmes de cohabitation. Vous voyez, les problèmes se trouvent au niveau des leaders. Les leaders du Sankuru, ce sont les gens qui manipulent, il y en a d'autres qui manipulent les gens pour essayer de se faire un leader. Il faut savoir comment manipuler les autres. Et non, moi je suis de tel, de savant, de tel, tout ça. Mais sinon au niveau de la population a besoin de l'unité pour le développement, parce que c'est tout ça qui a plongé les Sankuru dans le chaos. Donc maintenant, les Sankuru ont besoin de l'unité pour ce développement. Donc ces histoires-là de querelles, déjà des savanes, déjà des forêts et tout ça, les Sankuru n'ont plus besoin de ça. Parce qu'à cause de ça, les Sankuru est resté dernière province parmi les 26 provinces en termes de développement.
À un mois de l'élection du gouverneur du Sankuru, avez-vous un message, Madame Madondoa?
Je commence par nos élus provinciaux, les députés provinciaux. Je leur conscientise que les choix qu'ils vont faire, que ce soit un choix pour l'intérêt général de la population sankuroise, un choix qui doit amener les Sankuru dans le développement. Et le même message que je lance au niveau des présidents des partis politiques, les gens là qui doivent choisir les animateurs de la province, nous avons besoin du respect de la loi électorale qui demande le respect du genre, la représentativité de la femme. Ça nous demande 50%. Donc sur la liste qui sera mise pour le choix des candidats, nous avons besoin du respect de cette représentativité de la femme. Vous savez que depuis les Sankuru et provinces, la femme n'a jamais dirigé les Sankuru. Et peut-être c'est l'une des causes. Parce que dans une maison, lorsqu'une femme n'a pas des responsabilités. Donc vous voyez que cette maison ne peut pas vraiment bien fonctionner. Alors nous demandons aux responsables des partis politiques de pouvoir tenir compte de la représentativité de la femme. Depuis la session des chefs de l'État dans notre pays, il n'a jamais cessé de valoriser la femme. Nous avons vu au niveau de la primature, les chefs de l'État choisissent une femme. Nous avons les lois là-bas qui est dirigée par une femme. Nous avons besoin que les chefs de l'État puissent vraiment tenir compte des 100 courants parce qu'il y a tellement de problèmes. S'il y aura une femme qui sera titulaire, qu'un homme soit le vice. Si ça sera un homme qui sera titulaire, qu'une femme soit...
Madame Mado Ndoa, nous vous disons merci.
Messieurs les journalistes, c'est moi qui vous remercie.
Mado Ndoa, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Alain Hirong et Élisée Chikota Chivita, mis en onde par Dieudonné Nyangasa avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.